Bretagne 5, écoutez la Bretagne. Lecture en liberté, Denis Flagel.
Bonsoir. De nouveau, ce soir, avec Madame Bovary de Gustave Flaubert. Comme il s'ennuyait beaucoup à Yonville, où il était clerc chez maître Guillaumin, souvent M. Léon Dupuis, c'était lui, le second habitué du Lion d'Or, reculait l'instant de son repas, espérant qu'il viendrait quelque voyageur à l'auberge avec qui causer dans la soirée. Les jours que sa besogne était finie, il lui fallait bien, faute de savoir que faire, arriver à l'heure exacte et subir, depuis la soupe jusqu'au fromage, le tête-à-tête de Binet. Ce fut donc avec joie qu'il accepta la proposition de l'hôtesse de dîner en la compagnie des nouveaux venus, et l'on passa dans la grande salle où Madame Lefrançois, par pompe, avait fait dresser les quatre couverts. Homais demanda la permission de garder son bonnet, de peur des corisas. Puis, se tournant vers sa voisine, « Madame sans doute est un peu lasse. On est si épouvantablement cahoté dans notre hirondelle. » « Il est vrai, répondit Emma, mais le dérangement m'amuse toujours. J'aime à changer de place. » C'est une chose si maussade, soupira le clerc, que de vivre cloué aux mêmes endroits. Si vous étiez comme moi, dit Charles, sans cesse obligé d'être à cheval. Mais, reprit Léon, s'adressant à Madame Bovary, rien n'est plus agréable, il me semble. Quand on le peut, ajouta-t-il. Du reste, disait l'apothicaire, l'exercice de la médecine n'est pas fort pénible en nos contrées, car l'état de nos routes permet l'usage du cabriolet et, généralement, l'on paie assez bien, les cultivateurs étant aisés. Nous avons, sous le rapport médical, à part les cas ordinaires d'entérite, bronchite, affections bilieuses, etc., de temps à autre quelques fièvres intermittentes à la moisson, mais, en somme, peu de choses graves, rien de spécial à noter. Si ce n'est beaucoup d'humeurs froides et qui tiennent sans doute aux déplorables conditions hygiéniques de nos logements de paysans. Ah, vous trouverez bien des préjugés à combattre, monsieur Bovary. Bien des entêtements de routine nous se heurteront quotidiennement tous les efforts de votre science, car on a recours encore aux neuvaines, aux reliques, aux curés, plutôt que de venir naturellement chez le médecin ou chez le pharmacien. Le climat pourtant n'est point, à vrai dire, mauvais. Et même nous comptons dans la commune quelques nonagénaires. Le thermomètre, j'en ai fait les observations, descend en hiver jusqu'à 4 degrés et dans la forte saison touche 25-30 centigrades tout au plus. Ce qui nous donne 24 réaumur au maximum ou autrement 54 Fahrenheit. Mesure anglaise. Mais pas davantage. Et en effet, nous sommes abrités des vents du nord par la forêt d'Argueil, d'une part, des vents d'ouest par la côte Saint-Jean de l'autre, et cette chaleur cependant qui, à cause de la vapeur d'eau dégagée par la rivière, et la présence considérable de bestiaux dans les prairies, lesquels exhalent, comme vous savez, beaucoup d'ammoniac, c'est-à-dire azote, hydrogène et oxygène, non, azote et hydrogène seulement. Et qui, pompant à elle l'humus de la terre, confondant toutes ces émanations différentes, les réunissant en un faisceau, pour ainsi dire, et se combinant de soi-même avec l'électricité répandue dans l'atmosphère, lorsqu'il y en a, pourrait à la longue, comme dans les pays tropicaux, engendrer des miasmes insalubres. Cette chaleur, dis-je, se trouve justement tempérée du côté d'où elle vient, ou plutôt d'où elle viendrait, c'est-à-dire du côté sud, par les vents de sud-est, lesquels s'étant affranchis d'eux-mêmes en passant sur la Seine, nous arrivent quelquefois tout d'un coup comme des brises de Russie. Avez-vous du moins quelques promenades dans les environs ? Continuait Madame Bovary, parlant au jeune homme. « Oh, fort peu !» répondit-il. « Il y a un endroit que l'on nomme la pâture, sur le haut de la côte, à la lisière de la forêt. Quelquefois le dimanche, je vais là et j'y reste avec un livre, à regarder le soleil couchant. » « Je ne trouve rien d'admirable comme le soleil couchant, » reprit-elle. « Mais au bord de la mer, surtout. » « Oh, j'adore la mer !» dit Monsieur Léon. « Et puis, ne vous semble-t-il pas, répliqua Madame Bovary, que l'esprit vogue plus librement sur cette étendue sans limite, dont la contemplation vous élève l'âme et donne des idées d'infini, d'idéal ?»« Il en est de même des paysages de montagne, » reprit Léon. « J'ai un cousin qui a voyagé en Suisse l'année dernière. » Et qui me disait qu'on ne peut se figurer la poésie des lacs, le charme des cascades, l'effet gigantesque des glaciers. On voit des pins d'une grandeur incroyable en travers des torrents, des cabanes suspendues sur des précipices, et à 1000 pieds sous vous, des vallées entières quand les nuages s'entrouvent. Ces spectacles doivent enthousiasmer, disposer à la prière, à l'extase. Aussi je ne m'étonne plus de ce musicien célèbre qui, pour exciter mieux son imaginaire, avait coutume d'aller jouer du piano devant quelque site imposant. « Vous faites de la musique ? » demanda-t-elle. « Non, mais je l'aime beaucoup, » répondit-il. « Ah, ne l'écoutez pas, Madame Bovary, » interrompit Homais en se penchant sur son assiette. « C'est modestie pure !» « Comment, mon cher, et l'autre jour, dans votre chambre, vous chantiez l'ange gardien à ravir ? Je vous entendais du laboratoire, vous détachiez cela comme un acteur. » Léon, en effet, logeait chez le pharmacien, où il avait une petite pièce au second étage, sur la place. Il rougit à ce compliment de son propriétaire, qui déjà s'était tourné vers le médecin et lui énumérait les uns après les autres les principaux habitants d'Yonville. Il racontait des anecdotes, donnait des renseignements. On ne savait pas au juste la fortune du notaire, et il y avait la maison Touatch qui faisait beaucoup d'embarras. Emma reprit. « Et quelle musique préférez-vous ? » « Oh, la musique allemande, celle qui porte à rêver !»« Connaissez-vous les Italiens ?»« Pas encore, mais je les verrai l'année prochaine quand j'irai habiter Paris. » pour finir mon droit. C'est comme j'avais l'honneur, dit le pharmacien, de l'exprimer à monsieur votre époux à propos de ce pauvre Yanoda qui s'est enfui, vous vous trouverez, grâce aux folies qu'il a faites, jouir d'une des maisons les plus confortables d'Yonville. Ce qu'elle a principalement de commode pour un médecin, c'est une porte sur l'allée qui permet d'entrer et de sortir sans être vu. D'ailleurs, elle est fournie de tout ce qui est agréable à un ménage, une buanderie, cuisine avec office, salon de famille, fruitier, etc. C'était un gaillard qui n'y regardait pas. Il s'était fait construire au bout du jardin, à côté de l'eau, une tonnelle, tout exprès, pour boire de la bière en été. Et si madame aime le jardinage, elle pourra... « Ma femme ne s'en occupe guère, » dit Charles. « Elle aime mieux, quoi qu'on lui recommande l'exercice, toujours rester dans sa chambre, à lire. Ben »« C'est comme moi, » répliqua Léon. « Quelle meilleure chose, en effet, que d'être le soir au coin du feu avec un livre, pendant que le vent bat les carreaux et que la lampe brûle. »« N'est-ce pas ? » dit-elle, en fixant sur lui ses grands yeux noirs, tout ouverts. « On ne songe à rien, » continua-t-il. Les heures passent, on se promène immobile dans des pays que l'on croit voir, et votre pensée, s'enlaçant à la fiction, se joue dans les détails ou poursuit le contour des aventures. Elle se mêle aux personnages. Il semble que c'est vous qui palpitez sous leur costume. « Mais c'est vrai !» disait-elle. « Vous est-il arrivé parfois, » reprit Léon, « de rencontrer dans un livre une idée vague que l'on a eue, quelque image obscurcie qui revient de loin. Et comme l'exposition entière de votre sentiment le plus délié. « J'ai éprouvé cela, » répondit-elle. C'est pourquoi, dit-il, j'aime surtout les poètes. Je trouve les vers plus tendres que la prose et qu'ils font mieux pleurer. Mais cependant, ils fatiguent à la longue, reprit Emma. Et maintenant, au contraire, j'adore les histoires qui se suivent tout d'une haleine, où l'on a peur. Je déteste les héros communs et les sentiments tempérés comme il y en a dans la nature. En effet, observa le clerc. Ces ouvrages ne touchent pas le cœur, s'en écartent, il me semble, et s'écartent du vrai but de l'art. Il est doux, parmi les désenchantements de la vie, de pouvoir se reporter en idée sur les nobles caractères, des affections pures et des tableaux de bonheur. Quant à moi, vivant ici, loin du monde, c'est ma seule distraction. Mais Yonville offre si peu de ressources. Comme Tost, d'ailleurs, reprit Emma. Aussi, j'étais toujours abonné à un cabinet de lecture. « Si madame veut me faire l'honneur d'en user, dit le pharmacien qui venait d'entendre ces derniers mots, j'ai moi-même à sa disposition une bibliothèque composée des meilleurs auteurs, Voltaire, Rousseau, Delille, Walter Scott, L'écho des feuilletons, etc. Et je reçois de plus différentes feuilles périodiques, parmi lesquelles le Fanal de Rouen quotidiennement, ayant l'avantage d'en être le correspondant pour les circonscriptions de Buchy, Forges, Neufchâtel, Yonville et les alentours. » Depuis 2h30, on était à table, car la servante Artémise, traînant nonchalamment sur les carreaux ses savates de lisière, apportait les assiettes les unes après les autres, oubliait tout, n'entendait à rien et sans cesse laissait entrebâiller la porte du billard qui battait contre le mur du bout de la clenche. Sans qu'il s'en aperçût, tout en causant, Léon avait posé son pied sur un des barreaux de la chaise où Madame Bovary était assise. Elle portait une petite cravate de soie bleue qui tenait droit comme une fraise un col de batiste tuyauté. Et, selon le mouvement de tête qu'elle faisait, le bas de son visage s'enfonçait dans le linge ou en sortait avec douceur. C'est ainsi, l'un près de l'autre, pendant que Charles et le pharmacien devisaient, qu'ils entrèrent dans une de ces vagues conversations où le hasard des phrases vous ramène toujours au centre fixe d'une sympathie commune. Spectacle de Paris, titre de roman, quadrille nouveau, et le monde qu'il ne connaissait pas, Tost, où elle avait vécu, Yonville, où ils étaient, ils examinèrent tout, parlèrent de tout jusqu'à la fin du dîner. Quand le café fut servi, Félicité s'en alla préparer la chambre dans la nouvelle maison, et les convives bientôt levèrent le siège. Madame Lefrançois dormait auprès des cendres, tandis que le garçon d'écurie, une lanterne à la main, attendait M. et Mme Bovary pour les conduire chez eux. Sa chevelure rouge était entremêlée de brins de paille et il boitait de la jambe gauche. Lorsqu'il eut pris de son autre main le parapluie de M. le curé, l'on se mit en marche.
La mélancolie qui vient, qui coule, qui vous enfonce tout doucement, qui vous enroule, qui vous blottit, qui vous protège des ouragans. La mélancolie qui vient, qui cogne à la porte si souvent, que l'on s'y abandonne, que l'on se roule même dedans. La mélancolie de nos meilleures années, nos compagnes, nos conneries, ne doivent pas un jour s'oublier. Mais mélancolie se mélange, mon ange, s'en mêle dans nos vies de petits blancs, dans tous ces souvenirs d'école et de tout le tremblement. La mélancolie comme une anomalie qui démolit tout doucement, qui vous demande, qui vous explique qu'on n'est plus des enfants. La mélancolie qui coule de source, qui colle au corps et qui vous crée des putains d'emmerdements. La mélancolie, c'est communiste, tout le monde y a droit de temps en temps. La mélancolie n'est pas capitaliste, c'est même gratuit pour les perdants. La mélancolie, c'est pacifiste, on ne lui rentre jamais dedans. La mélancolie, oh tu sais, ça existe, elle se prend même avec des gants. La mélancolie, c'est pour les syndicalistes, il faut juste la carte de permanent. La mélancolie, c'est communiste, tout le monde y a droit de temps en temps. La mélancolie n'est pas capitaliste, c'est même gratuit pour les perdants. La mélancolie, c'est pacifiste, on lui rentre jamais dedans.
Lecture en liberté, Denis Flagel.
Nous revenons à Madame Bovary. Le bourg était endormi. Les piliers des halles allongeaient de grandes ombres. La terre était toute grise, comme par une nuit d'été. Mais la maison du médecin se trouvant à 50 pas de l'auberge, il fallut presque aussitôt se souhaiter le bonsoir et la compagnie se dispersa. Emma, dès le vestibule, sentit tomber sur ses épaules comme un linge humide le froid du plâtre. Les murs étaient neufs et les marches de bois craquèrent. Dans la chambre au premier, un jour blanchâtre passait par les fenêtres sans rideaux. On entrevoyait des cimes d'arbres et plus loin la prairie, à demi noyée dans le brouillard qui fumait au clair de lune, selon le cours de la rivière. Au milieu de l'appartement, pêle-mêle, il y avait des tiroirs de commodes, des bouteilles, des tringles, des bâtons dorés avec des matelas sur des chaises et des cuvettes sur le parquet. Les deux hommes qui avaient apporté les meubles avaient tout laissé là négligemment. C'était la quatrième fois qu'elle couchait dans un endroit inconnu. La première avait été le jour de son entrée au couvent. La seconde, celle de son arrivée à Tostes. La troisième, à la Vaubyessard. La quatrième était celle-ci. Et chacune s'était trouvée faire dans sa vie comme l'inauguration d'une phase nouvelle. Elle ne croyait pas que les choses pussent se représenter les mêmes à des places différentes, et puisque la portion vécue avait été mauvaise, sans doute ce qui restait à consommer serait meilleur. Le lendemain, à son réveil, elle aperçut Leclerc sur la place. Elle était en peignoir. Il leva la tête et la salua. Elle fit une inclination rapide et referma la fenêtre. Léon attendit pendant tout le jour que 6 heures du soir fussent arrivées, mais en entrant à l'auberge, il ne trouva que M. Binet attablé. Ce dîner de la veille était pour lui un événement considérable. Jamais, jusqu'alors, il n'avait causé pendant 2 heures de suite avec une dame. Comment donc avoir pu lui exposer, et en un tel langage, quantité de choses qu'il n'aurait pas si bien dites auparavant ? Il était timide d'habitude, et gardait cette réserve qui participe à la fois de la pudeur et de la dissimulation. On trouvait à Yonville qu'il avait des manières comme il faut. Il écoutait raisonner les gens mûrs et ne paraissait point exalté en politique, chose remarquable pour un jeune homme. Puis, il possédait des talents. Il peignait à l'aquarelle, savait lire la clé de sol et s'occupait volontiers de littérature après son dîner quand il ne jouait pas aux cartes. Monsieur Homais le considérait pour son instruction. Madame Homais l'affectionnait pour sa complaisance, car souvent il accompagnait au jardin les petits Homais, marmots toujours barbouillés, fort mal élevés et quelque peu lymphatiques comme leur mère. Ils avaient pour les soigner, outre la bonne, Justin, l'élève en pharmacie, un arrière-cousin de monsieur Homais, que l'on avait pris dans la maison par charité et qui servait en même temps de domestique. L'apothicaire se montra le meilleur des voisins. Il renseigna madame Bovary sur les fournisseurs, fit venir son marchand de cidre tout exprès, goûta la boisson lui-même et veilla dans la cave à ce que la futaille fût bien placée. Il indiqua encore la façon de s'y prendre pour avoir une provision de beurre à bon marché et conclut un arrangement avec Lestiboudois, le sacristain, qui, outre ses fonctions sacerdotales et mortuaires, soignait les principaux jardins d'Yonville, à l'heure ou à l'année, selon le goût des personnes. Le besoin de s'occuper d'autrui ne poussait pas seul le pharmacien à tant de cordialité obséquieuse. Et il y avait là-dessous un plan. Il avait enfreint la loi du 19 Ventose en 11, article 1er, qui défend à tout individu non porteur de diplôme l'exercice de la médecine. Si bien que, sur des dénonciations ténébreuses, Homais avait été mandé à Rouen, près de monsieur le procureur du roi en son cabinet particulier. Le magistrat l'avait reçu debout dans sa robe, l'hermine à l'épaule et toque en tête. C'était le matin, avant l'audience. On entendait dans le corridor passer les fortes bottes des gendarmes et comme un bruit lointain de grosses serrures qui se fermaient. Les oreilles du pharmacien lui tintèrent, à croire qu'il allait tomber d'un coup de sang. Il entrevit des culs de basse fosse, sa famille en pleurs, la pharmacie vendue, tous les bocaux disséminés, et il fut obligé d'entrer dans un café prendre un verre de rhum avec de l'eau de sels pour se remettre les esprits. Peu à peu, le souvenir de cette admonition s'affaiblit, et il continuait comme autrefois à donner des consultations anodines dans son arrière-boutique. Mais le maire lui en voulait. Des confrères étaient jaloux. Il fallait tout craindre. En s'attachant M. Bovary par des politesses, c'était gagner sa gratitude et empêcher qu'il ne parlât plus tard, s'il s'apercevait de quelque chose. Aussi, tous les matins, Homais lui apportait le journal. Et souvent, l'après-midi, quittait un instant la pharmacie pour aller chez l'officier de santé faire la conversation. Charles était triste. La clientèle n'arrivait pas. Il demeurait assis pendant de longues heures sans parler, allait dormir dans son cabinet ou regardait coudre sa femme. Pour se distraire, il s'employa chez lui comme un homme de peine et même il essaya de peindre le grenier avec un reste de couleur que les peintres avaient laissé. Mais les affaires d'argent le préoccupaient. Il en avait tant dépensé pour les réparations de toast, pour les toilettes de madame et pour le déménagement, que toute la dot, plus de 3 000 écus, s'était écoulée en 2 ans. Puis que de choses endommagées ou perdues dans le transport de toast à Yonville, sans compter le curé de plâtre, qui tombant de la charrette à un chaos trop fort, s'était écrasé en 1000 morceaux sur le pavé de Quincampoix. Un souci meilleur vint le distraire, à savoir la grossesse de sa femme. À mesure que le terme en approchait, il la chérissait davantage. C'était un autre lien de la chair s'établissant, et comme le sentiment continu d'une union plus complexe. Quand il voyait de loin sa démarche paresseuse et sa taille tournée mollement sur ses hanches sans corset, quand vis-à-vis l'un de l'autre, il la contemplait tout à l'aise, et qu'elle prenait assise des poses fatiguées dans son fauteuil, alors son bonheur ne se tenait plus. Il se levait, il l'embrassait, passait ses mains sur sa figure, l'appelait petite maman, voulait la faire danser, et débitait moitié riant, moitié pleurant, toutes sortes de plaisanteries caressantes qui lui venaient à l'esprit. L'idée d'avoir engendré le délectait. Rien ne lui manquait à présent. Il connaissait l'existence humaine tout du long et il s'y attablait sur les deux coudes avec sérénité. Emma d'abord sentit un grand étonnement, puis eut envie d'être délivrée pour savoir quelle chose c'était que d'être mère. Mais ne pouvant faire les dépenses qu'elle voulait, avoir un berceau en nacelle avec des rideaux de soie rose et des béguins brodés, elle renonça au trousseau dans un accès d'amertume et le commanda d'un seul coup à une ouvrière du village sans rien choisir ni discuter. Elle ne s'amusa donc pas à ces préparatifs où la tendresse des mères se met en appétit et son affection dès l'origine en fut peut-être atténuée en quelque chose. Cependant, comme Charles à tous les repas parlait du marmot, bientôt elle y songea d'une façon plus continue. Elle souhaitait un fils. Il serait fort et brun et s'appellerait Georges. Et cette idée d'avoir pour enfant un mâle était comme la revanche en espoir de toutes ses impuissances passées. Un homme au moins est libre. Il peut parcourir les passions et les pays, traverser les obstacles, mordre au bonheur les plus lointains. Mais une femme est empêchée continuellement, inerte et flexible à la fois. Elle a contre elle les mollesses de la chair avec les dépendances de la loi. Sa volonté, comme le voile de son chapeau retenu par un cordon, palpite à tous les vents. Il y a toujours quelque désir qui entraîne, quelque convenance qui retient. Elle accoucha un dimanche vers 6 heures au soleil levant. « C'est une fille, » dit Charles. Elle tourna la tête et s'évanouit. Presque aussitôt, Madame Homais accourut et l'embrassa, ainsi que la mère Lefrançois du Lion d'Or. Le pharmacien, en homme discret, lui adressa seulement quelques félicitations provisoires par la porte entrebâillée. Il voulut voir l'enfant et le trouva bien conformé. Pendant sa convalescence, elle s'occupa beaucoup à chercher un nom pour sa fille. D'abord, elle passa en revue tous ceux qui avaient des terminaisons italiennes, telles que Clara, Louisa, Amanda, Atala. Elle aimait assez Galzinde, puis encore Isulte ou Léocadie. Charles désirait qu'on appelât l'enfant comme sa mère, Emma. Elle s'y opposa. On parcourut le calendrier d'un bout à l'autre et l'on consulta les étrangers. Monsieur Léon, disait le pharmacien avec qui j'en causais l'autre jour, s'étonne que vous ne choisissiez point Madeleine, qui est excessivement à la mode maintenant. Mais la mère Bovary se récria bien fort sur ce nom de pécheresse. Monsieur Homais, quant à lui, avait en prédilection tous ceux qui rappelaient un grand homme, un fait illustre ou une conception généreuse. Et c'est dans ce système-là qu'il avait baptisé ses 4 enfants. Ainsi, Napoléon représentait la gloire et Franklin la liberté. Irma, peut-être, était une concession au romantisme, mais Athalie, un hommage au plus immortel chef-d'œuvre de la scène française. Car ses convictions philosophiques n'empêchaient pas ses admirations artistiques. Le penseur chez lui n'étouffait point l'homme sensible. Il savait établir les différences, faire la part de l'imagination et celle du fanatisme. Voilà donc pour ce soir la suite de ce roman de Flaubert, Madame Bovary, que nous retrouverons demain. Cette émission a été réalisée par Frédéric Guyon et vous pouvez la retrouver en podcast sur le site de Bretagne 5, bretagne5.fr. Bonsoir.
Pour réécouter les émissions de Bretagne 5, rendez-vous sur bretagne5.fr.